Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale, 22h à Paris, 21h temps universel.
Paul Lancin Spinelli.
Des haut-parleurs qui crient de fuir le camp de réfugiés de Jénine sur le champ. Le son diffusé ce matin par l'armée israélienne, c'est celui entendu par les résidents de ce lieu situé dans le nord de la Cisjordanie occupée. Troisième jour, ce jeudi, d'une opération qualifiée d'antiterroriste par Israël. Elle a fait 12 morts selon le dernier bilan. La politique anti-migrant de Donald Trump s'engage dans une bataille juridique. Il y a un peu moins d'une heure, le président américain a fait appel de la suspension par un juge fédéral d'un décret remettant en cause le droit du sol. Kiev qui lance plus de 1000 perquisitions pour démanteler des réseaux de trafic d'armes utilisés dans la guerre contre la Russie. Et puis les grands clubs de foot sont de véritables usines à cash. C'est le résultat d'une étude parue ce jeudi. Le Real Madrid reste l'écurie en tête de ce classement. C'est une guerre qui se déplace vers le nord-ouest à présent. Après la mise en vigueur de la trêve à Gaza dimanche dernier entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a poursuivi ce jeudi, pour le troisième jour consécutif, son opération à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les soldats de l'État hébreu ont ordonné aujourd'hui aux résidents du camp de réfugiés d'évacuer les lieux.
Quatre jours après le cessez-le-feu à Gaza, c'est sur un autre front que les violences se poursuivent, alimentées par un soutien inébranlable de Washington à Israël. Depuis mardi, l'État hébreu mène une opération d'envergure à Jénine, à une dizaine de kilomètres à l'est de ses frontières. Baptisée « Mur de fer », elle vise, d'après Benjamin Netanyahou, à éradiquer le terrorisme dans la ville et notamment des djihadistes du mouvement islamiste palestinien qui se dissimuleraient dans le camp de réfugiés de Jénine. Avec des bulldozers, des blindés et le renfort de l'aviation, Israël ne lésine pas sur les moyens. Les routes qui mènent au camp ont été détruites pour s'assurer, selon l'armée, qu'aucun engin explosif n'y soit caché. Mais les témoignages sur place se multiplient. Les habitants sommés d'évacuer le camp auraient fui à pied sous les bruits de drones. Une version des faits démentie par Israël qui annonce dans le même temps avoir abattu deux membres du djihad islamique. Le bilan des trois jours, lui, serait bien plus lourd. Au moins 12 morts selon les autorités palestiniennes.
Pierre Olivier, et ce jeudi soir, le chef d'état-major de l'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que la décision de lancer l'opération dans le camp de réfugiés de Jénine avait été la bonne. Le général Halevi qualifie le camp de « plaque tournante » pour ceux qui planifient des attaques ou cherchent un refuge après en avoir commis. Donald Trump, lui, avait été l'un des acteurs de la signature de la trêve à Gaza. L'un des autres grands combats du nouveau président américain, c'est celui contre l'immigration illégale, quelques minutes seulement après la suspension par un juge fédéral du décret qu'il avait signé lundi pour remettre en cause le droit du sol. Donald Trump a fait appel de cette suspension aujourd'hui. Donald Trump, qui par ailleurs continue d'empiler les annonces ce jeudi soir toujours, le dirigeant conservateur a promis la déclassification prochaine des dossiers du gouvernement américain concernant les assassinats de l'ancien président John Kennedy en 1963 ainsi que de Martin Luther King 5 ans plus tard. RFI 22h03 à Strasbourg en France où le Parlement européen a adopté aujourd'hui ce jeudi une résolution d'urgence pour ordonner la libération immédiate de 4 otages européens retenus en Iran. 3 d'entre eux sont français. Certains de leurs proches ont été reçus hier soir mercredi par des eurodéputés. Leur message, faire pression sur Téhéran pour sauver la vie de cette femme et de 2 hommes, selon eux, en grand danger. Anastasia Becchio.
Pendant 2 jours, ils ont multiplié les rendez-vous au Parlement européen. La sœur de Cécile Kohler, professeure de français, arrêtée en mai 2022 avec son compagnon Jacques Paris, ou encore Tristan Bultiau, porte-parole du comité de soutien à Olivier Grondeau, le 3e otage français.
Nous, on est inquiets tous les jours qu'il se fasse du mal. Il est très dépressif. Il est vraiment sous la pression constante de la peur de l'exécution. Ses camarades de cellule sont souvent la cible de peine de mort. Et du coup, c'est une ambiance extrêmement délétère pour son esprit dans laquelle il vit.
Les proches des otages ont été invités au Parlement européen par la députée socialiste Chloé Ridel. C'est elle qui a poussé à l'adoption d'une résolution exigeant la libération des otages retenus par le régime des Mollahs.
Ça va amener l'Union européenne à se positionner officiellement pour demander la libération de ce que nous on appelle des otages, parce qu'en fait le régime iranien emprisonne des gens pour faire pression sur la France, pour faire pression sur l'Europe. Et c'est une pratique mais absolument délétère qu'on combat, parce que Cécile, Jacques ou Olivier, ils n'ont rien à voir avec la diplomatie, ils n'ont rien à voir avec la politique étrangère de quelque pays que ce soit. Et c'est leur vie qui aujourd'hui est complètement gâchée est ruinée par le régime iranien depuis 2 ans.
Les proches des otages français estiment qu'il est urgent de créer une coordination entre les États. Une 15aine d'Européens sont actuellement détenus en Iran. Anastasia Becchio, Strasbourg, RFI.
Privées d'université, de balades dans les parcs ou encore de salles de sport, les femmes afghanes subissent un crime contre l'humanité. C'est la formule utilisée aujourd'hui par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui demande donc l'émission de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de 2 dirigeants talibans pour persécution contre les femmes, mais aussi contre la communauté LGBTQI+. Le magistrat soupçonne aussi ses représentants de réprimer toute opposition par des meurtres, des actes de torture ou encore des viols. C'est maintenant au juge de la CPI de confirmer, amender ou bien rejeter les demandes du procureur. Des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien en cas de cessez-le-feu avec la Russie, c'est hors de question. Déclaration ce jeudi provenant du ministère russe des Affaires étrangères. Sa porte-parole Maria Zakharova estime qu'une telle mesure évoquée entre autres par le premier ministre britannique Keir Starmer serait un prémisse à une escalade incontrôlable. L'une des autres déclinaisons de cette guerre, c'est le trafic illégal d'armes à feu en Ukraine. Kiev a donc annoncé plus de 1000 opérations afin de démanteler ses réseaux, Emmanuel Chaz.
Dans une courte vidéo aux airs de série à suspense diffusée sur ses réseaux sociaux, la police nationale ukrainienne a partagé des images d'une perquisition parmi un millier d'opérations similaires, dit-elle. Des opérations toujours en cours qui ont lieu à travers tout le pays. On y voit des officiers des forces spéciales en pleine perquisition dans un appartement dont ils forcent l'entrée et des saisies d'argent et d'armes. Selon Kiev, le but de ces opérations est de démanteler un trafic illicite né de la saisie d'armes aux soldats russes sur le champ de bataille. Ces saisies faites dans l'urgence de la guerre échappent souvent à tout contrôle et alimentent un trafic d'armes en augmentation depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. En plus des armes, munitions et explosifs qui circulent illégalement ont également été saisis. La police promet un compte-rendu dès la fin des opérations. Ce n'est pas la première fois que Kiev tente d'endiguer ce trafic d'armes. L'année dernière déjà, d'autres saisies avaient eu lieu à Kiev. Le port et la vente d'armes illicites sont passibles de 7 ans d'emprisonnement, précise la police nationale. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et ce jeudi encore, les autorités ukrainiennes ont donné l'ordre d'évacuer les familles avec enfants de 16 localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Les frappes russes s'y sont intensifiées ces derniers jours, selon le gouverneur. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, alarmé par les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés face aux combattants du M23, soutenus eux par l'armée rwandaise, se sont poursuivis ce jeudi autour de la cité de Sake, à une 20aine de kilomètres de Goma, c'est la capitale provinciale du Nord Kivu. Ces combats ont provoqué d'importants mouvements de population. Plusieurs camps de déplacés se trouvent sur l'axe entre Sake et Goma. Et puis des clubs de foot au porte-monnaie toujours plus démesurés. C'est l'un des enseignements d'une étude du cabinet Deloitte qui réalise chaque année un classement des 20 clubs les plus lucratifs. Nicolas Feldman, comme pour la saison 2022-2023, c'est le Real Madrid qui occupe la première place et bat de nouveaux records.
Oui, puisque le Real Madrid devient le premier club de foot à générer sur une seule saison plus d'1 milliard d'euros de revenus. Pour son calcul, le cabinet Deloitte se base sur 3 sources de revenus. La billetterie d'abord, les droits télé ensuite et enfin les revenus commerciaux, c'est-à-dire par exemple la vente de maillots. Résultat dans ces 3 domaines, le Real gagne toujours plus d'argent. L'étude souligne que les travaux de rénovation du stade de Santiago Bernabéu ont permis au Real Madrid de multiplier ses recettes de match par 2. Autre fait notable, le Real, qui a presque tout raflé la saison dernière, Ligue des Champions ou encore Championnat, a vu ses recettes commerciales augmenter de près de 20%. Le PSG, lui, reste sur le podium, 3e juste derrière Manchester City. La saison dernière, le club parisien a généré plus de 800 millions d'euros de revenus. Enfin, du côté des autres clubs français, l'Olympique de Marseille pointe, lui, à la 19e place, juste devant un petit nouveau, l'Olympique lyonnais, qui malgré ses problèmes financiers fait pour la première fois son entrée au classement. Il est à la 20e place.
Explication signée Nicolas Feldman. Et puis sur le terrain justement, l'Olympique lyonnais qui a calé ce jeudi soir chez les Turcs du Fenerbahçe 0-0 en Europa League. Les Lyonnais qui restent tout de même 3e de ce classement d'Europa League. La première place elle est toujours occupée par la Lazio de Rome qui mène pour l'instant 3-0 contre la Real Sociedad. C'est la fin de ce journal sur Radio France Internationale. Dans quelques secondes, il sera 22h10 dans nos studios à Paris, 21h10 temps universel.